Amen. Merci beaucoup. Je ne voulais pas faire une méditation. On va commencer quand même par la parole de Dieu. Et bon. Et je voudrais vous donner quelques idées sur le psaume 127. Si l'Éternel, je vais le lire, hein. Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain que vous vous levez matin et que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur. Ainsi, il donne le sommeil à son bien-aimé. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel et le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Bienheureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis dans la porte. Je vais juste donner quelques points. Si l'Éternel ne bâtit la maison, évidemment, on a bien conscience qu'en se mariant, en établissant un foyer, on espère avoir des enfants. Ce n'est pas toujours le cas, on va en parler tout à l'heure. Mais on espère avoir des enfants. Et nous sommes créés pour une relation à Dieu, pour être connectés à Dieu. Or, c'est ce que nous avons vécu avant la chute. Ce qu'a porté la chute, c'est une séparation. Et nous nous sommes débrouillés nous-mêmes pour survivre dans ce monde de brut. Et on n'a surtout pas voulu de Dieu. Et on s'aperçoit que si... L'Éternel ne bâtit pas la maison. La maison en grec, oikos, c'est pas la maison avec des briques, c'est la maison avec les pères, la mère et les enfants et les grands-parents et la famille élargie, les oncles et tantes. Si l'Éternel n'est pas dedans, on va faire beaucoup d'efforts et les efforts sont vains. On est appelé à vivre dans cette dépendance de Dieu. Je veux pas faire très long. Mais juste donner quelques points importants. Si l'Éternel ne garde la ville, et il y a une phobie aujourd'hui, c'est la sécurité. Et on a besoin de sécurité. Les mamans, les épouses ont besoin de sécurité. Et on peut mettre des alarmes partout. Et on peut tout faire. Et en fin de compte, ça n'empêchera pas le sentiment de sécurité, ou d'insécurité, pardon, à moins que nous puissions nous confier en Dieu. Ensuite, l'Éternel donne le sommeil à son bien-aimé ou sa bien-aimée. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire pour avoir la paix du cœur, la tranquillité? Chez nous, en France, c'est le pays le plus réputé pour le Prozac, hein, pour des tranquillisants. Et on se fait du souci pour tout, et y a, les symptômes sont clairs, l'épuisement, la frustration, le stress, et en fin de compte, on perd le sommeil. Le sommeil est notre bien le plus précieux, et c'est encore le fait de pouvoir se reposer dans l'amour de Dieu. Ceux qui étaient là ce matin, vous m'avez entendu parler de l'amour de Dieu, se reposer dans son amour. Ça n'empêchera pas les difficultés de venir, vous avez bien compris. Le fait d'être chrétien ne nous empêche pas de vivre les circonstances de tous les humains, sauf on a des ressources. On sait qu'on peut traverser ces difficultés et ces circonstances difficiles parce qu'on n'est pas seul, avec celui, notre Créateur, avec notre Père Céleste qui nous aime. Une fois, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Nous, avec ma femme, on a passé des moments très, très difficiles. Et un soir, je faisais une réunion à Strasbourg et j'étais à 11h du soir, prenais le train pour revenir chez moi. Et mon fils me téléphone, il dit, mais papa, comment tu fais pour ne pas craquer? Maman est à l'hôpital. Mon frère est dans la drogue. Et tout va mal pour toi. Et toi, toi, il semble que ça va. Comment tu fais? Je ne comprends pas. Et je lui ai dit deux choses. me faire du souci, ça ne sert à rien. Donc, je ne m'en fais pas. C'est biblique, ça ? C'est très biblique. 1 Pierre 5. Déchargez-vous de tout votre souci, car il prend soin de vous. C'est-à-dire, il vous a mis en premier sur sa liste. C'est ça que ça veut dire. 1 Pierre 5. Et j'ai dit, et Dieu m'aime. Et dans ces difficultés, il me conduit. Vous voyez ce que je veux dire ? L'Éternel donne le sommeil à son bien-aimé. On peut passer des nuits blanches. On peut, avec un enfant malade, avec un adolescent désobéissant, avec son conjoint qui ne va pas bien, avec un chômage, le chômage. J'ai passé des difficultés comme ça. Et estimer la bonté de Dieu dans toutes ces circonstances, ne pas douter de la bonté de Dieu, ça vous donne le sommeil. Ça vous permet d'avoir le sommeil. Donc, ça c'est notre troisième point. Les fils ou les enfants, on ne va pas être exclusif, mesdames, hein, les enfants sont une récompense, un héritage de l'Éternel. Alors c'est là où, peut-être au milieu de vous, où vous connaissez des couples qui n'ont pas d'enfants, et c'est là où on ne comprend pas tout. Pourquoi le Seigneur permet ça ? C'est une grande souffrance, évidemment. C'est une grande souffrance, mais Dieu peut pallier aussi, et pallie à cette souffrance, et permet d'adopter. Et il y a aussi des personnes seules qui ne sont pas mariées et qui peuvent avoir des enfants spirituels en grand nombre. Ma sœur, par exemple, n'était pas mariée pendant des années. Elle s'est mariée assez tard, 38 ans, 39 ans. Elle avait adopté 7 enfants, seule. Elle s'en est vue de toutes les couleurs, mais c'était son ministère. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vrai que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Il y a des circonstances difficiles. Mais vous allez voir, et je me rappelle de ma femme, un jour, c'était la fête des enfants dans l'assemblée, et le culte était autour des enfants, et elle a pleuré tellement la période dans laquelle on était, nos adolescents, comme vous voulez, hein. Pardon. Mais elle a dit, mais où est la bénédiction liée aux enfants ? Aujourd'hui, je pleure parce qu'ils étaient tellement difficiles, quoi. Et pourtant, on ne doit pas se départir de ce verset. C'est un héritage de la part de l'Éternel. Un héritage. Mais un héritage, attention, on n'a pas de prétention sur l'héritage. Ça nous est donné. Et c'est de la grâce. On ne peut pas dire c'est à moi, ça nous a été donné. Et nous, on redonne nos enfants au Seigneur. Et puis, des fils, comme des flèches dans la main d'un homme puissant. Et j'aime beaucoup cette image parce que, c'est vrai, aujourd'hui, au XXIe siècle, un arc, des flèches, ça n'a pas le même sens que dans ce temps-là où on se défendait avec un arc et des flèches, ou on allait à la chasse avec un arc et des flèches. Aujourd'hui, bon, si vous allez dans un pays où on utilise des flèches, vous allez en Afrique, vous allez installer vos flèches sur le mur pour décoration. Bon, c'est pas cette idée-là, quand même. Les fils comme des flèches, c'est-à-dire on va les envoyer, ces flèches. Mesdames, je suis désolé de vous déranger dans vos croyances, mais vos enfants ne vont pas rester avec vous, toujours. Préparez-vous. Et je vais vous donner un outil ou une idée. Plus vous allez les chasser de chez vous, entre guillemets, les chasser, plus vous préparez leur autonomie, plus ils voudront revenir. Plus vous allez les retenir, plus ils voudront partir. Mon père avait compris ça. Ah non, mais c'est vrai. Moi, je suis le dernier de 6. Et mes parents se sont mariés jeunes. Et dans ce temps-là, mon père dit, quand on est jeune et qu'on s'aime bien, ce sont des choses qui arrivent. Et ils ont eu 6 enfants en 6 ans. Mon père, à 27 ans, avait 6 enfants. Ça vous fait mal, mesdames. Hein? C'est vrai. Ma mère a failli mourir après que je sois né. Donc, je suis le 6e de 6. Mais c'était extraordinaire, parce que quand on s'est convertis tous les uns les autres, et qu'on était adolescents, mon père et mes parents étaient très jeunes. Et donc, c'était, bon, le maître mot chez nous, c'était chahut. Hein? Et donc, ça bougeait beaucoup. Mais mon père, quand on avait 18 ans, nous offrait une valise. Il avait tout compris. Et il disait, c'est pour partir, c'est aussi pour revenir. À 13 ans, tous, 13-14 ans, on est tous partis à l'étranger. Mais il gardait le contact. Il gardait le contact, la relation était là. Et donc, on avait toujours envie de revenir à la maison. Donc, c'est ça. On prépare des flèches. Mais des flèches, vous avez des flèches, vous détenez l'arc, c'est-à-dire l'outil pour envoyer les flèches. Et nous, nous voulons envoyer nos enfants, n'est-ce pas? Mais vers quoi vous voulez les envoyer? Si vous n'avez pas de cible, hein, vers quoi vous voulez les envoyer? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quelles sont les valeurs avec lesquelles je veux que mes enfants ou mon enfant partent quand il va partir de la maison? Vous êtes déjà posé la question? C'est quand ils sont tout petits que vous voulez avoir ces valeurs-là. Ce n'est pas juste qu'ils connaissent le Seigneur. Hein. Ça, c'est une valeur. Mais il y en a bien d'autres. Et donc, je trouve que connaître le Seigneur, c'est trop global. Ce n'est pas assez ciblé. Ben, c'est le cas de le dire. Donc, ayons notre cible. Vers quoi vous voulez les envoyer? Peut-être on aura le temps de travailler là-dessus. Mais vous voyez, on a 18 ans pour préparer nos flèches, pour les affiner, pour faire la pointe, pour mettre les ailettes derrière, pour les équilibrer. On a 18 ans, pas plus. Après, ils partent. Bon, peut-être. Bon. Mais il ne suffit pas d'une bonne flèche. Il faut encore l'envoyer, cette flèche. Et qui l'envoie? C'est nous. Et nous, on n'a pas la toute-puissance pour les envoyer. Sauf qu'on a notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est laquelle? Un archer, c'est un peu comme quand vous jouez au tennis. Qu'est-ce qui compte le plus quand on joue au tennis? Les pieds. Les pieds, votre position. C'est la position des pieds qui dirige la balle. C'est la même chose pour l'archer, c'est notre position. C'est de savoir qui vous êtes en tant que mère et en tant que père, en tant qu'homme, en tant que femme. Qui êtes-vous? Généralement, les dames passent par une crise, 40 ans, pour être un peu général. Et il y a pas mal de questions qui se posent à ce niveau-là, à ce moment-là. Surtout parce que quand on a eu des enfants, on n'avait pas trop le temps de travailler sur notre enfance, les relations avec les parents et tout ça. Mais ça va venir, ça vient. Et là, personne d'entre nous a eu des parents parfaits. Bien au contraire, on a eu des parents qui ont été même parfois toxiques, difficiles, et qui nous ont déformés. Ils nous ont fait croire des mensonges. Et c'est là où être bien dans ses baskets, c'est savoir ce que Dieu dit à notre sujet. Ça, c'est valable pour vous, les dames, mais pour vous, messieurs, aussi. Et la crise de milieu de vie pour vous, messieurs, qui, maintenant, ça change un petit peu, hein, mais qui est de 40 ans à 50 ans, on va dire comme ça, c'est très important de se rappeler de ce que Dieu dit de nous. C'est important pour nous-mêmes, important pour le conjoint, important pour nos enfants. Parce que c'est nous qui, et c'est le fait de connaître notre identité qui va donner une direction à nos enfants. Vous m'entendez là? Donc, le fait de savoir qui nous sommes, eh bien, est très important. Évidemment, on ne contrôle pas tout. Et ça, il faut absolument, en tant que parent, qu'on soit conscient de nos limites. Vous pouvez bien dire quelque chose. À un moment donné, votre enfant, il va avoir sa propre décision à prendre. il va avoir sa propre volonté, sa propre personnalité. Il ne sera peut-être pas d'accord avec vous, il va peut-être prendre... Il va peut-être, vous savez, nous, les parents, on a les enfants autour de nous. Vous avez l'école maternelle ou l'école enfantine chez vous ? À quel âge ? 5 ans. Nous, c'est 2 ans et demi. Hein. Ça veut dire que nos enfants, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, 5 ans, ils sont influencés par toutes sortes de choses. Et on ne contrôle pas tout. Ils sont influencés par quoi ? Par les écrans, par les médias. Un adolescent a 4 écrans. Vous savez ça ? Un adolescent, il a son portable, ou ce qu'on appelle, vous appelez ça, son cellulaire. Il a quoi encore ? La télévision, Internet et non, les jeux vidéo, je parle des écrans, et les jeux vidéo. Donc, il y a beaucoup d'influence. Après ça, il y a aussi les amis, il y a les profs et tout ça. Et donc, nous, on est juste là-dedans, on essaye encore d'être des parents, quoi. Mais ce n'est pas si facile. Donc, on envoie nos flèches, on envoie nos enfants vers l'autonomie, mais il y a toutes sortes de courants d'air qui passent là et qui peuvent dévier nos enfants du but. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour ça ? La prière. On a besoin d'être assuré de l'amour de Dieu pour nous et pour nos enfants et de la prière. Moi, je crois au combat spirituel que Satan... On a lu ce matin dans 1 Pierre 5, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et nos enfants sont la cible de Satan. Mais évidemment, la jeune génération. Et par quoi, notamment ? Par quoi, notamment ? Allez-y. Les amis ? Oui. Par la sexualité. La sexualité est le terrain de jeu favori de Satan. Et s'il peut pervertir la sexualité, ce qui est un immense cadeau de Dieu, la sexualité est l'arme, une grande arme dans les mains de Satan, parce que la sexualité, et l'apôtre Paul l'en parle dans 1 Corinthiens 6, tout péché est en dehors du corps. Bon, je ne vous dis pas qu'on peut voler, on peut insulter et on peut mentir, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais tout ça, c'est dans le corps, c'est en dehors du corps. Mais la sexualité, la fornication et toute la sexualité déréglée, c'est dans le corps. Et la sexualité est intimement liée à l'âme et à l'esprit. Les médias veulent faire croire qu'en fin de compte, on peut coucher avec un garçon ou une fille s'il n'y a pas de sentiment d'amour, c'est juste physique. C'est un immense mensonge. Parce qu'il y a une mémoire sexuelle. Il y a une mémoire de toute la sexualité et tous ces actes vont au plus profond de nous et perturbent aussi notre équilibre à la fois psychologique et spirituel. Donc ça, c'est un des combats et il faut absolument qu'on comprenne cela pour que dès le jeune âge, nous puissions enseigner nos enfants. Sur la sexualité, je pense que la deuxième angoisse des parents, c'est la drogue ou les dépendances. Hein. Et là aussi, il ne faut pas attendre que ce soit les copains qui les enseignent. Quoi. Voilà. Donc nos flèches, si vous voulez, on les envoie. Nous, on a vraiment besoin d'être unis ensemble en couple et bien dans nos baskets, l'un et l'autre, bien ensemble, pour envoyer nos flèches. Il faut absolument qu'on sache et que vous puissiez parler ensemble de l'objectif. Et puis après, c'est à la grâce de Dieu. D'accord ? Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Ok. Alors, moi, ce que je voudrais vous demander, c'est que vous vous tourniez l'un vers l'autre. Mettez-vous... la disposition de la salle n'est pas favorable, mais ça ne fait rien. Tournez-vous vers vos voisins, comme vous voulez, comme c'est le plus facile. Et puis... Répondez à cette question, vous avez quelques minutes pour répondre à cette question. En élevant un enfant, j'ai appris que... Essayez ça. Essayez ça. Tournez-vous. Vous pouvez vous déplacer. Hein. Déplacez-vous, déplacez-vous. Vous pouvez vous bouger. Hein. Voilà, on va. Je vous laisse pas beaucoup de temps, mais je suis sûr qu'on va trouver plusieurs réponses. Qui c'est qui veut partager quelque chose? En élevant un enfant, j'ai appris que nos enfants sont le miroir de nous-mêmes et ça nous agace. N'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Quoi encore? On ne contrôle pas grand-chose. Donc, ça nous garde très humbles et dépendants du Seigneur. Oui. Quoi d'autre? Que le cœur de l'enfant, ton cœur. Les deux, absolument. Que le cœur est plus important que les gestes. Sans oublier les gestes. Sans oublier les gestes. Ça va ensemble, mais les gestes sans le cœur, ça n'a pas de sens. Enfin, des gestes d'amour, est-ce qu'on peut appeler ça d'amour? Oui. Oui, oui. Sauf que, on ne peut pas échapper. Je veux dire, ça, c'est une vision à long terme, n'est-ce pas? Mais si on regarde dans l'Épître aux Galates, les enfants, enfin un fils, il est quand même avec des tuteurs et des curateurs jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'aperçoive qu'il est fils de la maison. Dans ce sens-là, nous pouvons avoir cette idée lointaine, c'est-à-dire notre objectif, comme nous avons vu tout à l'heure, qu'ils prennent des bonnes décisions, ils savent prendre des décisions, mais il ne faut pas se dédouaner de notre responsabilité. Ils ne pourront pas le faire. Nos enfants sont enseignés ou sont instruits ou s'instruisent par mimétisme. C'est-à-dire, ils vont apprendre non pas de nos prédications sur eux ou à eux, mais de comment nous vivons. Si Will, par exemple, est respectueux vis-à-vis de toi, retiens-toi, Will. Non. Will, si tu es respectueux de ta femme et si tu parles à ta femme avec respect devant tes enfants, c'est une immense leçon que tu donnes. Et tes enfants sauront comment se comporter avec en tout cas tes garçons avec leurs femmes ou avec les femmes en général. Et donc, on ne peut pas leur demander d'abord de prendre des décisions. Ils sont incapables. Je vais vous le montrer tout à l'heure pourquoi ils sont incapables. Hein. Mais donc, oui, ça c'est notre objectif plus tard. Mais on tend vers cela et on va mettre ça en place. Quelqu'un d'autre, en élevant un enfant, j'ai appris que... Tu peux répéter ? Oui. Absolument, absolument, absolument. Avec quelques nuances quand même. Non, mais avec quelques nuances quand même, n'est-ce pas ? Parce qu'on n'est pas tout puissant et qu'ils vont aussi avoir leurs influences et leur propre personnalité. Hein, d'accord. Quelqu'un d'autre ? Et comment tu vis ça ? Oui. C'est positif ou négatif ? D'accord. D'accord. Mais vous voyez comment on dit, quand on dit « jamais je ferai comme mon père, jamais je ferai comme ma mère », l'apôtre Pierre parle de ça, de la vaine manière de vivre que nous avons apprise de nos pères. Mais vous savez, il y a le principe du balancier. Mes parents ont fait comme ça et on pourrait réagir en disant « moi je ferai jamais comme ça » et hop, on va dans l'inverse, ce qui n'est pas mieux. Ce qui est bon à faire, c'est de dire « mes parents ont fait comme ça, tes parents ont fait comme ça, qu'est-ce que nous voulons faire » n'est-ce pas ? Parce que vous êtes une nouvelle entité, vous êtes une nouvelle cellule et vous pouvez choisir aussi et choisir aussi dans cette dépendance à Dieu. Hein. Et tout ce qu'ont fait nos parents n'est pas faux. Et tout ce qu'ils ont fait n'est pas forcément juste non plus. Donc à nous de... Mais quand on est en réaction, et c'est vrai que parfois on se retrouve à dire, voilà, c'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Quelqu'un d'autre encore ? Oui ? Hey. À difficulté à nous élever, nous, quoi. Ouais. Pas tout, non. Oui, c'est le même principe. Oui. OK, merci beaucoup. On va continuer et on va parler des familles d'aujourd'hui. Alors, voilà, on a les familles traditionnelles, père, mère, enfant. Bon, dans l'assemblée, dans les églises, on c'est ce que nous trouvons peut-être davantage, encore davantage, et il y a des modes de fonctionnement importants à comprendre dans la famille traditionnelle. Mais on ne peut pas négliger non plus les familles monoparentales. Et quand vous annoncez l'évangile, à ceux qui sont en dehors, et vous trouvez des familles monoparentales avec leur mode de fonctionnement, et vous ne pouvez rien imposer sur ces familles monoparentales, ce n'est pas la même chose. Et elles ont d'autres besoins que les familles traditionnelles. Et il faut vraiment en avoir conscience pour aussi les accueillir sans jugement et vivre avec eux, et peut-être aussi pallier à certaines difficultés. Je pense spécialement à une mère de famille. Chez nous, en France, quand il y a divorce, la garde des enfants est généralement donnée à la mère. Et dans, les, dans nos églises, nous avons même des familles qui se convertissent, des familles monoparentales. Et nous voyons des jeunes, des garçons sans père, qui ne voient pas souvent leur père, qui n'ont pas de modèle masculin. Et nous, enfin, pour moi, j'encourage beaucoup les hommes à s'occuper de ces garçons et de, les, de sortir et de, d'avoir des activités avec ces garçons, justement, pour qu'ils aient des modèles masculins. Et donc, ça, c'est quand même... les familles monoparentales ont d'autres fonctionnements. On a des familles recomposées, bien sûr. Et alors là, c'est, la difficulté est accrue parce qu'il y a monsieur avec ses enfants, madame avec ses enfants qui se rejoignent. Alors maintenant, de nouveau en France, on a des familles nombreuses. Non pas parce que il y a beaucoup d'enfants. Généralement, je crois qu'en France, c'est 2,5 hein, en moyenne. Et même maintenant, on se retrouve avec des familles de 5, 6, 7 enfants à cause des familles recomposées. Et les familles recomposées ont beaucoup de, enfin, un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus complexe qu'une famille traditionnelle ou une famille monoparentale, puisque les relations sont difficiles. Et il y a un passé aussi à gérer. Donc, on ne peut pas les négliger. Et évidemment, tout à l'heure, j'ai parlé des couples sans enfants. C'est une souffrance, mais je crois que le Seigneur a aussi un ministère pour ces couples sans enfants. Et puis, évidemment, les célibataires font partie de la famille, et les célibataires, elles doivent vraiment être inclus dans notre cercle. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien certains célibataires, certaines célibataires, même dans l'Église, se sentent un peu exclus. Il y a une célibataire, une amie célibataire qui m'a dit, tu sais Bertrand, quand on est invité dans une famille, je ressens une compétition avec la maîtresse de maison vis-à-vis du mari. Vous comprenez ça? Et donc, ils ont une place difficile à trouver, quoi. Mais il faut vraiment les entourer, ces personnes-là, parce qu'elles sont très précieuses, font partie de la famille aussi. Alors, on va aller, si vous voulez, un peu plus loin, et je vais vous parler de la place de chacun dans la famille. Donc, je vous ai expliqué, je suis thérapeute familial, je donne des cours, des formations aussi, et je parle, moi, du système familial. Du système familial. Et je vais parler maintenant, vous voyez un peu là? Ça va? Ok, je vais vous parler du système familial d'une famille traditionnelle. Le père, la mère, ça n'a rien à voir avec une tête, un visage ou quoi que ce soit. Et on va faire une fille, un garçon. Voilà. Et je vous pose la question, dans cette famille-là, traditionnelle, système nucléaire, c'est-à-dire la famille, quelle est la population? C'est vrai, tout le monde est important. Mais quelle est la population la plus importante dans cette famille? Les filles? Qui a dit les filles? Les filles? D'accord. Les filles? Quelle est la population la plus importante? Tout le monde est important. Mais là, j'ai bien dit la plus importante. Les parents? Qui dit les parents encore? Oui? Alors, les gars? Les parents, le père, les enfants en général, qui dit les enfants? D'accord. Vous voyez, les avis sont différents. Personne n'a dit les garçons, juste les garçons. Hein. Non. Vous avez appris déjà, les gars. Hein. Vous ne voulez pas essuyer les plâtres après. Hein. Mais moi, je vais dire, ce sont les parents. Ce sont les parents, le couple. Le couple est l'entité, la population de cette famille la plus importante, c'est le couple. C'est vous en couple, dans l'éducation des enfants, que vous le croyez ou pas. C'est vous qui êtes le plus important. Quand il y a du lien dans le couple, il y a une frontière. C'est pas le mur de Berlin, hein. il est tombé déjà. Mais c'est une frontière virtuelle, une frontière imaginaire. Et les parents vivent leur vie et les enfants vivent leur vie. Bien sûr, il y a des relations. Il y a des relations. Mais la population la plus importante, c'est le couple. Et on sait qui sont les parents, on sait qui sont les enfants. Et les enfants, parce qu'il y a du lien, écoutez bien, parce qu'il y a du lien dans le couple, les parents, les enfants se sentent comment ? En sécurité. Je ne sais pas ici au Canada, mais en France, dans les villes, c'est le taux de divorce, c'est 1 pour 2, quoi. C'est 50% des mariages terminent en divorce. C'est ici, la même chose. Ça veut dire que quand il y a des frictions dans le couple, l'insécurité que donne aux enfants, c'est quoi ? C'est les enfants se disent, oh là, les parents, ça ne va pas. Je suis le prochain à être enfant de divorcé. C'est ce qu'ils se disent. Automatiquement. Mes copains, la moitié de mes copains ont vécu ça. Et là, mes parents ne s'entendent pas. Il y a un immense sentiment d'insécurité qui se met. Et moi, je dirais, vous voulez faire quelque chose pour vos enfants, les éduquer comme il faut, dans la parole de Dieu et dans un sentiment de sécurité. Je vais être un petit peu absolu comme ça, hein, pour vous choquer un peu. Moi, je vais dire, ne vous occupez pas de vos enfants. Occupez-vous de votre conjoint. Quand vous vous occuperez de votre conjoint, vous allez vous occuper de vos enfants. De toute façon. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Mais le contraire n'est pas sûr. Je vais vous le montrer dans un instant. Mais quand le couple s'occupe l'un de l'autre, quand le conjoint s'occupe l'un de l'autre, les enfants peuvent grandir dans un climat de sécurité, peuvent être tranquilles parce que papa et maman s'aiment. Et ils le montrent. Et ils vont grandir, ils vont partir à 18-20 ans, normalement, à moins qu'ils aient le syndrome de Tanguy, vous connaissez ? Ah oui. Et on va parler de ça si vous voulez plus tard, mais à un moment donné, ils vont partir de la maison. Et ils vont pouvoir partir, pourquoi ? Parce que les parents s'aiment. OK. Maintenant, admettons, j'enlève ça, si j'arrive. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, Doug, ma mère m'a élevé quand même. Et on va imaginer, et ce n'est pas une imagination, c'est normal. Nous les hommes, nous travaillons à l'extérieur et nous trouvons beaucoup notre reconnaissance à l'extérieur. On est compétent professionnellement. On est reconnu professionnellement et on se donne beaucoup. Notre identité à nous, en tant qu'homme, souvent, est dans notre travail. Je ne dis pas pour tout le monde, mais beaucoup. On s'accomplit beaucoup dans notre travail. Mais mesdames, vous allez le dire, on passe beaucoup de temps, nous, les hommes, à travailler. Pour vous, peut-être, vous avez un job à l'extérieur. Peut-être. Mais quand vous revenez à la maison, vous venez à votre deuxième job. C'est-à-dire vous occupez des enfants parce que vous êtes davantage tourné vers les relations dans la famille, vers la famille et le bien-être des uns et des autres. Tandis que nous, quand on revient au boulot, du boulot, vous avez tout compris. Alors là, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais il nous faut notre journal, notre bière et puis quoi encore ? Et la zapette, hein ? Et la zapette. En fait, ça, c'est la meilleure amie de l'homme, hein. Avec ça, on a vu le monde en une minute, on a vu 60 chaînes du monde entier, on sait tout ce qui se passe, et en fin de compte, on pense qu'on contrôle ça. Mais, Mais on revient là, on est tellement fatigué, on a tellement donné que, en fin de compte, on vient et on a besoin de repos. Alors que madame, elle vient, elle s'inquiète des enfants, de leurs devoirs. Est-ce qu'il y a le linge est prêt? Est-ce que les courses sont faites? Est-ce que le repas est prêt? Enfin, il y a beaucoup de choses. Et tout ce qu'elle veut, elle, c'est parler avec son mari. Comment ça s'est passé ta journée? C'est toujours la même question, quoi. Hein? Et le mari répond, ben oui, bien, mais comme d'habitude, quoi. Enfin, pourquoi tu poses toujours les mêmes questions? Enfin, je crois qu'on se comprend. Et si le mari ne fait pas attention, il va y avoir une distance. Lui, il est tellement fatigué qu'il est là, il a beaucoup donné et il va plus peut-être donner à sa femme l'attention et l'affection. Et je ne dis pas, ce n'est pas en une fois que ça se passe, c'est graduellement, c'est une petite chose après l'autre et on prend de la distance et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc elle revient ici, hein. Elle va s'occuper des enfants et lui, il va s'occuper de lui. C'est un peu une caricature, mais quand même, il n'y a pas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va se passer ça. C'est que ça va partir. Cette frontière invisible et nécessaire, elle va partir. Et elle, comme elle va être desséchée à l'intérieur, comme elle va plus ses besoins profonds de relation avec son mari, eh bien, ça sera minimal. Et je vous dis, c'est pas un gouffre. Si c'était un accident, ça va assez bien, quoi, parce qu'on peut se demander pardon et on peut revenir. Mais c'est graduel, c'est imperceptible, c'est au fil des mois et des mois et des mois et des années. Et en fin de compte, il y a une distance. Il y a une distance qui va se passer comme ça, là. De moins en moins de liens. Oh, on vit ensemble. On peut même aller à l'église ensemble. On peut même... on a des relations sexuelles. On peut parler ensemble. Mais on cohabite davantage que... On est colocataire, si vous voulez, quoi. Davantage que conjoint. Et en fin de compte, elle va dessécher à l'intérieur, mais elle ne va pas pouvoir supporter ça. Je fais une parenthèse. Nous sommes construits de telle manière que notre cerveau, imaginez notre cerveau comme une balance en équilibre. Et on est construit, on a été créé par Dieu pour être dans un équilibre relationnel. Et dès que on est dans un déséquilibre relationnel. Dès que nos besoins fondamentaux de la personne intérieure ne sont pas satisfaits, on va en parler dans une minute, hein, eh bien, on est en déséquilibre. Comme notre cerveau ne supporte pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va compenser. Compenser par quoi? Par toutes sortes de choses. Vous pouvez imaginer n'importe quoi. Mais on ne supporte pas d'être en déséquilibre. Donc, admettons dans notre cas là, comment elle va compenser? Quelle est la façon la plus facile pour compenser le manque de relation avec son mari? Les enfants. Et il va y avoir des alliances avec un ou les deux ou les trois enfants. Lui, il va se retrouver un peu seul. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, de temps en temps, il va faire une alliance avec l'un ou l'autre, peu importe. On peut en faire, ou les trois, d'accord? Même en fait, les trois, là. Et donc, chacun a des alliances, à des moments différents. Et les enfants, comment ils font? Ils se frottent les mains. Pourquoi? Ils sont très compétents aussi, eux. Quand maman ne veut pas quelque chose, ils vont aller voir papa. Et quand papa ne veut pas donner quelque chose, ils vont aller voir maman. Et ils vont jouer sur les deux tableaux. Le problème, c'est quoi? C'est que il va y avoir donc des alliances. Une grande partie des couples qui viennent me voir avec les difficultés d'enfants, c'est un problème d'alliance. Un problème d'alliance. Et qu'est-ce qui se passe? Admettons qu'ils sont adolescents. Donc là, ils commencent à vivre dans un climat, et s'ils sont petits, ils vivent dans un climat où ils sentent très bien. Ils ont des antennes, hein. déployés. Et ils sentent très bien que entre maman et papa, ça ne va pas bien. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'avant, il n'y a plus de frontières là. Il y a une confusion. La maman, elle a tellement soif, et je vois ça, je vois des mères qui ont tellement soif de relations qu'elles vont parler avec la fille aînée. Et elle va devenir confidente de la fille aînée jusqu'à parler des relations sexuelles. Alors que c'est pas du tout son affaire. Mais il y a une telle soif et une telle demande que, en fin de compte, on va faire peser sur les enfants un devoir de subvenir aux besoins affectifs des parents. Alors que normalement, le besoin affectif de l'un et de l'autre doivent être comblés l'un par l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je vais entendre dire? Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont être adolescents? Ça va être difficile. Admettons qu'ils soient toujours ensemble, ça va être difficile de quitter la maison. Parce qu'eux, ils se disent, oh là là, c'est nous qui tenons les parents ensemble. Si on part, ça va être la catastrophe. Et on se voit ça souvent. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est important de comprendre la place, que vous, les mamans, vous compreniez votre place, mais que vous, les pères, vous puissiez comprendre que votre place est auprès de votre épouse et que la personne la plus importante dans votre vie ne sont pas vos enfants, c'est votre conjoint. Vos enfants vont partir, mais le jour où ils partent, si vous n'avez rien construit entre vous, ça va être le malheur. Ça va être le malheur. Et le bonheur, en fait, le bonheur, si on peut parler même d'une manière philosophique, le bonheur, il est dans la relation. Et je vous assure, enfin, j'espère qu'il n'y a pas de confusion. Vous suivez mon raisonnement ou pas? Quand j'ai mis ici tout à l'heure, j'avais mis ça. C'est très positif, hein? C'est très positif qu'il y ait que les parents soient ensemble avec du lien et que les enfants jouent sur leur territoire. C'est très positif, ça. Parce qu'il va y avoir l'amour de chacun d'eux. Les couples va parler d'un même langage. Dans l'éducation des enfants, quand travaillez en votre unité de couple, parce que le conflit numéro un chez un couple, c'est quoi? C'est l'éducation des enfants. Il faut absolument prendre du temps pour en parler. OK. Le lien, comment est-ce qu'on crée du lien? Allez-y, c'est à vous. Comment est-ce qu'on crée du lien dans le couple? Pas suffisant. S'échapper des affaires. Des enfants, s'échapper des enfants, s'échapper des affaires aussi. Mais quoi encore? Qu'est-ce qu'elle a dit, la sœur? Hein? Aller à Québec? Oui, non, mais d'accord. Mais non, mais il nous faut du temps. Donc prenez vos agendas et puis mettez un rendez-vous professionnel, enfin plutôt conjugal, je ne sais pas comment vous allez dire ça. Un rendez-vous avec votre femme. Et c'est juste pour elle. Votre mari, ça sera juste pour lui. Les enfants, s'ils sont grands, ils vont se garder tout seuls. S'ils sont petits, vous faites le nécessaire. Mais il vous faut du temps. Il faut du temps pour être ensemble. Ce n'est pas juste une cohabitation de colocataires. C'est vraiment des échanges. Et pour ça, on ne peut pas se passer de ce temps-là. Et vous allez voir que plus il y aura du lien entre vous, plus vous passerez du temps avec vos enfants. C'est automatique, quoi. Donc, cette idée-là, c'était que vous, en tant que mère ou en tant que père, vous trouviez votre place en tant que parent, toujours cette idée de couple, et puis vous avez des enfants, alors eux aussi, ils ont une place particulière. Le premier, généralement, vous connaissez le syndrome du premier ? Beaucoup de responsabilités. Il doit garder les petits frères et les petites sœurs. Et en fin de compte, il est grand avant son âge. On lui fait porter beaucoup de responsabilités. Deuxième, après ça change un petit peu. Le deuxième, mais avec le troisième, souvent le troisième, c'est le clown de la famille. C'est un petit peu... c'est peut-être pas chez tout le monde, hein, mais souvent c'est ça. Et va se faire remarquer. Il arrive après les deux premiers et on lui dit, mais pourquoi tu n'es pas comme tes frères ? Et lui, il va se faire remarquer en étant clown. Et le quatrième, il a la place du petit dernier qui, de la part des frères et sœurs, ne peut jamais avoir la parole. Il va toujours essayer de pédaler pour faire partie des grands, quoi. Hein. Mais chacun a une place. Vous devez reconnaître la place de chacun de vos enfants. On va aller un peu plus vite ou un peu plus loin, si vous voulez. Et on va parler des besoins de chaque membre de la famille. Et je crois que là, on arrive à un point très important de comprendre ça. Chez nous, on dit, et j'ai suivi un stage sur le suicide. Qui se suicide le plus au Canada ? Les quoi ? Les adolescents ? Donc, comme chez nous, quoi. Qui dit autre chose ? Les hommes ? Qui dit autre chose ? C'est les personnes âgées, absolument. En tout cas, en France, c'est les personnes âgées. Pourquoi on dit les adolescents ? Parce que oui, les adolescents, par nature, sont tout neufs. Ils ont des corps qui ne sont pas malades. Et donc, c'est la première maladie. Avec la deuxième maladie chez les adolescents, c'est le scooter. Hein ? Ah oui, oui, oui. Mais la première maladie, c'est le suicide. Mais c'est loin derrière le suicide des personnes âgées. Alors pourquoi les personnes âgées se suicident-elles ? Et là, moi, j'introduis ça, je dis ça pour introduire ce travail-là. Dieu nous a créés avec des besoins fondamentaux. Manger, boire, dormir, respirer, ce sont des besoins fondamentaux. Mais au niveau de l'âme, au niveau de la personne intérieure, quels sont vos besoins fondamentaux ? Quels sont nos besoins fondamentaux d'un petit bébé, d'un enfant de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, un jeune de 25 ans, ou des adultes comme nous, ou des personnes âgées, de tous les êtres humains, pour tout, chacun des êtres humains, quel que soit leur âge ou son âge, eh bien, les mêmes besoins sont là. Lesquels ? Aimer et être aimé. On ne peut pas vivre sans ça. On ne peut pas vivre sans ça. OK, quoi d'autre ? Les quoi ? L'écoute. Oui. On va dire besoin d'attention. OK. Avoir de la valeur, ça va être l'ensemble. Être, ça va être l'ensemble. J'ai pas entendu. La stabilité, on va parler de sécurité. Besoin de sécurité. D'accord ? Encore deux, et on s'arrêtera là. Hein ? Compréhension, on va parler de acceptation. Être compris, c'est ça ? Acceptation. C'est ça ? Hein ? D'accord ? Il m'en manque un. Aimer et être aimé, besoin d'attention, sécurité, acceptation et de la reconnaissance. Reconnaissance. Et vous allez voir, il se recoupe un petit peu, il se chevauche. C'est transversal. Mais besoin d'être aimé, aimer et être aimé, je ne sais pas qui avait fait ces expériences en Roumanie ou en Allemagne pendant la guerre, où un enfant était... Les enfants pouvaient être langés, nourris, mais on ne leur parlait pas, on ne les touchait pas. Pff, impossible, ils mouraient, quoi. Besoin d'attention. Qu'est-ce que ça nous donne quand on nous prête de l'attention ? Pardon? On a de l'importance et de la sécurité. Quand ma femme, il y a quelques mois, m'a dit, Bertrand, est-ce que tu vas m'aider? Est-ce que tu vas m'aimer quand je serai vieille? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit simplement, donne-moi de la sécurité, quoi. Elle sait qu'il y a de la compétition à l'extérieur. Et elle dit, est-ce que tu vas toujours m'aimer? Est-ce que ta promesse vis-à-vis de moi? Est-ce que tes sentiments? Et j'ai besoin de sécurité. C'est ce qu'elle me dit. L'acceptation et la reconnaissance, c'est presque la même chose, mais pas tout à fait. L'acceptation, c'est quoi? Est-ce que vous acceptez votre conjoint tel qu'il est ou tel qu'elle est, avec sa différence? Est-ce que vous acceptez vos enfants tels qu'ils sont? Je ne doute pas que vous aimez vos enfants. Il y avait cette maman qui vient en thérapie familiale avec sa fille. Sa fille est 14 ans, elle est boutonneuse, elle n'est pas bien dans sa peau, elle est mal fagotée, franchement, ça ne va pas, quoi. Et elle, 35-40 ans, c'est une pépée, une femme qui aguicheuse presque, hein, et qui, en fin de compte, oui, presque aguicheuse. Et la fille, elle est assise comme ça, elle est vraiment sur ses quatre... Et puis elle se tourne vers sa fille et elle dit « Oh, regarde comme tu es !» Alors la question que je vous pose, est-ce que cette dame aime sa fille? Oh, je pense qu'elle aime, mais elle ne l'accepte pas comme elle est. Ça, c'est important. Est-ce que vous acceptez vos enfants tels qu'ils sont, comme Dieu vous les a donnés? Celui qui est toujours de bonne humeur et celui qui chouine tout le temps. Nous, on avait un fils, on l'appelait le lézard gémissant. Ah, impossible, quoi. Toute la journée. Et hop, ça... Oh, ok. Pourtant, l'aîné, c'était la crème, quoi. Ben, ça a changé maintenant, hein, mais voilà. Donc, on a un autre fils qui était très difficile, très difficile. Et l'accepter tel qu'il était, lui donner de la sécurité, et puis le reconnaître comme légitime. Regardez maintenant. Est-ce que Dieu vous aime? Voilà, vous êtes timide. Oui, il nous aime. Vous avez un verset pour dire ça, de façon très personnelle? Hein? Un verset? Jean 3, 16, mais ça c'est un peu global, hein, c'est le monde, mais pour toi-même. Galates 2, 20, Christ qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, ça c'est super. D'accord, on va mettre Galates 2, 20. Bon, c'est égal, hein, vous les connaissez. Besoin d'attention. Besoin d'attention. Absolument, absolument. Il connaît toutes choses. Il sait aussi le nombre de nos cheveux. Et le psaume aussi qui dit « L'Éternel ne sommeillera pas ». Vous vous rappelez ce verset? Ok. D'accord. Sécurité. Il vous donne de la sécurité? Un verset. Pardon? Je t'abandonnerai pas, Hébreux chapitre 13. Je t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. D'accord. De telle manière que nous pouvons dire « L'Éternel est mon soutien, que me fera l'homme ?» D'accord. L'acceptation, il vous accepte tel que vous êtes. Frère, il t'accepte comme tu es. Et toi aussi, frère, avec ta barbe et tout. Non, mais il t'accepte. Quel verset? Ah ben, on se fait des soucis pour nous, hein. Attendez, moi, j'ai rêvé d'avoir 10 cm de plus. Parce que je trouvais que si j'avais 10 cm de plus, ça serait super. Et non, Dieu m'a fait comme ça. Et il m'accepte comme ça. Et vous savez, on a souvent une mauvaise image de nous-mêmes, nos enfants, et on va parler de ça dans une minute, de l'image de nous-mêmes. Bon, mais est-ce que Dieu nous accepte tels que nous sommes? Un verset pour ça. Encore pécheur. Bon, et je pense aussi à ce verset dans Éphésiens. Nous avons été acceptés dans le bien-aimé. D'accord? Mais bien sûr, tous ces versets-là. Et de la reconnaissance. Un verset pour ça. Il vous reconnaît. Il vous reconnaît comme tel que vous êtes. Et j'en ai parlé ce matin. Tu es mon fils, par exemple. Tu es mon enfant. Voyez de quel amour le Père nous a aimés, de tel que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jean 1, Jean 3, 1. Et voilà. Et si vous voulez, tout ça, ce que vous aviez dit tout à l'heure est juste, ça nous donne le sens de la valeur. Le sens de la valeur. Une personne bien dans ses baskets, c'est une personne qui a ça. Peut-être vos parents ne vous ont pas donné ça, mais vous n'êtes pas obligé de marcher boiteux toute votre vie parce que vos parents ne vous ont peut-être pas montré l'amour ou ne vous ont peut-être pas accepté ou reconnu comme une personne digne d'être aimée ou n'ont pas fait attention à vous. Ma femme, son père était tellement occupé dans son business qu'il ne l'a jamais pris sur ses genoux, jamais embrassé, jamais le temps. Il ne savait même pas dans quelle classe elle était. Et elle s'est réveillée un jour en étant adulte. Elle a dit, mais mon père n'a jamais fait attention que j'existais. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça nous donne le sens de la valeur. Et si nous n'avons pas vécu, nous n'avons pas eu de parents parfaits, mais dans le regard de Dieu nous donne cette colonne vertébrale dont nous avons besoin. Et pourquoi je parle de ça alors qu'on parle de l'éducation des enfants et donner des racines et des ailes à nos enfants? C'est parce que nous sommes en capacité d'exprimer ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Vous comprenez, ma sœur? Nous sommes en capacité parce que en Christ, nous avons tout ça. Tout ça. Nous avons été reconstruits dans notre personnalité et nous sommes capables de le donner à nos enfants. Et nos enfants ont besoin de ça. Regardez, je vais faire quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hein? Un homme? Ouais. Imaginez. Ouais, c'est quoi? C'est un réservoir. Bon, c'est français, quoi, mais bon, c'est... Mais c'est un réservoir. Et on parle du réservoir émotionnel ou du réservoir affectif. Et si vous voulez, c'est un peu comme la manne. On ne peut pas faire de réserve. Il y a un problème avec ce réservoir, c'est qu'il n'y a pas de robinet, là. Ça vient et ça part. On en a besoin de tous les jours. On a besoin tous les jours. Et on a besoin de quoi tous les jours? On a besoin de ça tous les jours. Et ça serait utopique de penser qu'on va, vivre ça un maximum tous les jours de la vie. Ça serait utopique. On est sur une terre de péché et on vit avec des gens qui ne sont pas forcément parfaits. Et ça serait utopique. Mais le contraire, c'est dramatique. Si c'est ici, si le niveau est ici, on peut survivre. Combien de temps on survit là? Oh, si on est un peu résilient en nous-mêmes, si on est un peu, on a des compétences, une personnalité forte et qu'on sait prendre les choses à bras le corps, on peut survivre combien de temps là? Une journée? Deux jours? Trois jours? Mais après, on tombe en quoi? Hein? En panne sèche de quoi? Affectif. On dessèche à l'intérieur. Et qui c'est qui nous nourrit normalement? C'est l'autre. C'est notre conjoint. Ce sont les personnes autour de nous qui nous aiment. Ils nous nourrissent. Mais si ça ne vient pas, qu'est-ce qui va se passer là? Allez-y. Là quoi? On va ailleurs. Ah oui. Ça c'est. Ou bien on tombe en dépression. On est anéanti. On ne peut pas supporter ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut être là. Mais il y a chez chacun d'entre nous, on a nos hauts et nos bas, selon les semaines, selon les jours. Mais si on reçoit quelque chose qui est dans la moyenne, c'est bonnard, ça nous suffit, on est tranquille. Si une fois ça va plus haut, parce qu'on passe des vacances ensemble, et on se fait beaucoup de câlins, et on se donne beaucoup d'attention, et on se déclare, on dit à notre conjoint combien on l'aime, et on est proche, et on a du temps ensemble, et on l'accepte, on ne lui fait pas de reproches, etc., etc. Alors ça peut venir là, et c'est le bonheur, c'est ça le bonheur. Maintenant, ce que je suis en train de dire, je parle du couple, parce que je pense que l'éducation des enfants, si votre conjoint est bien, vos enfants seront bien. Je voudrais vous poser une question. Donc, vous voyez, on a tout ça, on l'a vu là. En un mot, c'est avoir de la valeur, compter pour quelqu'un. Et moi, là, je voudrais vous poser une question avant de partir pour la deuxième, pour le petit break. Je voudrais vous proposer cet exercice. C'est votre conjoint. Cherchez un des besoins fondamentaux, vous les avez ici, que nous venons de voir et dont vous pensez que votre conjoint manque le plus. C'est vous. On parle de l'éducation des enfants, je parle de vous. Manque le plus. Je voudrais que chacun, personnellement, vous puissiez prendre un papier, si vous avez ça, ou réfléchir. Et comment est-ce que vous pourriez satisfaire un des besoins fondamentaux qui manque le plus à votre conjoint? Vous avez 3 minutes. Et ces 3 minutes peuvent être déterminantes pour cette semaine. Allez-y, réfléchissez et je vous donne 3 minutes. Vous pouvez partager ça avec votre conjoint si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, hein. Ça va? On va terminer cette première session en disant, vous voyez, je vous ai fait travailler, on a travaillé sur notre couple, mais on va aller un peu plus loin. Chacun de vos enfants ont besoin de ça. Et qu'est-ce qui va apporter cela au fur et à mesure des semaines et des mois et des années pendant que vos enfants sont dans vos pattes? Pendant qu'ils traînent là, dans la maison, comment est-ce que vous allez pouvoir leur montrer, leur donner besoin d'attention, répondre à leurs besoins d'attention, leur donner de la sécurité, les accepter tels qu'ils sont et les reconnaître comme ils sont? Moi, je dirais, chacun de nos enfants, nous avons eu 4 garçons, chacun de nos enfants a une clé qui lui est propre pour ouvrir son cœur. Nos enfants sont différents. Pourtant, comme on dit en Afrique, même père, même mère, même moustiquaire. Hein? mais nos enfants sont différents. Quelle est la clé? Si vous aviez un papier, je vous suggère de, même ensemble, en couple, dans une de vos sorties, de parler d'un enfant et de dire, mais quelle est la clé pour ouvrir son cœur? Et le deuxième, quelle est la clé pour ouvrir son cœur? Moi, je peux vous dire, mon premier, à 14 ans, on était en Afrique, il venait toujours parlé. J'étais pilote d'avion, hein, on avait notre propre avion dans la mission. J'étais pilote d'avion et lui, dès qu'il y avait une place, il venait avec moi, tout le temps avec moi. J'avais une moto toujours avec moi. À 14 ans, ça se passait pas très bien parce que voilà cette crise d'adolescence et on ne s'est plus parlé. Un jour, j'ai eu l'occasion, on était au bord de la mer, j'ai acheté un bateau, un catamaran, un bateau à voile. On l'a réparé ensemble et on en a fait ensemble. On n'a plus jamais parlé de nos problèmes. Mais maintenant, il a 32 ans et vraiment, on est deux frères en Christ. Et ça passe. Le deuxième, c'était la Coupe du monde de football. Vous appelez le soccer, c'est ça? En 98, là, je lui ai demandé de m'expliquer tout, et les joueurs, et les équipes, et comment. Et là, ça nous a liés. Le troisième, point d'interrogation. Ce n'était pas avant qu'il a l'âge de 24 ans, 25 ans, où on a fait quelque chose ensemble. Et là, c'était peut-être un des enfants difficiles qu'on a eu. Et le quatrième, c'était, on a fait des week-ends trappeurs, des week-ends père-fils. J'ai organisé ça. Depuis l'âge de 12 ans, il avait fait ça jusqu'à l'âge de 24 ans, pendant 23 ans. Et on a fait ça. Donc, d'abord, il était... père-fils, et puis après c'était père-fils, mais c'était plutôt collaborateur. Et lui, c'était ça son truc. Hein. Mais vraiment, c'est chercher la clé qui va ouvrir le cœur de votre enfant. Et ça, c'est pas maintenant, je décide d'aimer mon fils, et donc maintenant je décide d'avoir de l'attention pour mon fils ou mon enfant, etc. C'est une attitude de vie. Ça se donne au jour le jour, à fur et à mesure. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais il faut que ça soit très pratique. Il ne faut pas dire oui, ça c'est bien, c'est de la théorie, c'est très... Non, il faut que ça soit très pratique. Passer du temps avec eux, ils traduisent le mot amour, ils l'appellent comme ça. Temps. T-E-M-P-S. Vous passez du temps avec eux, c'est de l'amour. Si vous passez du temps avec eux, ils ont un sens de la valeur. C'est du temps. Et messieurs, c'est ça. Le problème, c'est que on pourrait dire la vie est mal faite. Parce que quand vos enfants ont le plus besoin de vous, c'est là où vous êtes le plus occupé au boulot et à l'église. Parce qu'on vous demande beaucoup de choses. Mais vos enfants, il faut passer du temps. Pas leur prêcher, du temps. On va s'arrêter, on va appeler ça une heure. Hein? C'est ça, vous m'avez dit, hein? Une heure. C'était à peu près ça, hein? Ou bien encore 5 minutes. Non. Là, on va s'arrêter là. On fait un break de 10 minutes et on revient là. C'est possible ?